Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, Michel a cité un texte du livre de Josué et depuis, j'ai été particulièrement intéressé de continuer à réfléchir sur ce texte qui est tiré du livre de Josué et donc des chapitres 3 à 5. Alors, une petite introduction quand même pour vous dire quel est l'angle qui m'a particulièrement intéressé. C'est que lorsque j'écoutais Michel, il m'a semblé important de considérer que la lecture de la parole de Dieu ne peut pas se faire comme la lecture d'un récit inscrit dans une certaine temporalité et dont le contenu présenterait un ou des modèles utiles pour marcher dans la foi. C'est ce que j'ai entendu dans certains endroits ces derniers mois où finalement la Bible n'est qu'un texte qui est là que pour rendre intéressant la connaissance de Dieu et de notre relation éventuellement à Dieu. Et il me semble à moi que l'Écriture, dès les premiers mots de la Genèse, établit des principes spirituels qui sont sous-jacents à tous les récits. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de prendre en compte les principes qui régissent le monde à la fois spirituel, mais le monde aussi dans lequel nous vivons, c'est-à-dire nos vies tout entières. Ces récits, qu'ils soient historiques, prophétiques ou poétiques, nous portent à découvrir les principes de Dieu. Je dis par là que nous ne pouvons nous affranchir, dans notre lecture de la Bible, des principes spirituels sur lesquels repose l'Écriture et qui en justifie et l'existence et sa raison d'être. C'est-à-dire que la Bible, s'il n'y a pas dans notre lecture de l'Écriture, de cette parole que nous qualifions de parole de Dieu, la découverte et l'intérêt de découvrir les principes de Dieu, alors autant lire le Comte de Monte Cristo ou Les Misérables de Victor Hugo. Ce sera tout aussi profitable. Si nous faisons le choix de chercher et de découvrir et d'appliquer les principes spirituels qui se trouvent dans l'Écriture, alors ce risque-là, entre guillemets, peut transformer nos vies personnelles et peut construire en nous et au milieu de ce monde le royaume de Dieu. Et je crois que c'est vraiment en écoutant Michel ces dernières semaines que tout à coup je me suis dit, mais est-ce que nous avons conscience dans notre rapport à l'Écriture, à la parole de Dieu, des principes qui sont établis? Alors ces principes, ce sont lesquels? Quels sont les principes qui font que quelque part, ce texte, cette parole, ces mots, ces phrases, ces livres ont, un sens essentiel? Ces principes, on pourrait en énumérer quelques-uns, c'est Dieu est notre Créateur et l'humanité a choisi librement de se séparer de lui. Ça, c'est le premier des principes. Dans ce que nous dit l'Écriture, un autre principe, c'est que Dieu, pour autant, ne nous a pas mis définitivement à l'écart, mais il nous parle pour nous montrer le chemin possible du salut auquel il pourvoit. Est-ce que ça, c'est le principe que l'on trouve dans l'Écriture quand nous la lisons? Un autre principe, c'est que l'homme est libre de suivre ce chemin du salut ou de s'en abstenir. Il a une totale liberté de choisir Dieu ou pas. Un autre principe qui se trouve dans l'Écriture, quand nous voulons la lire en ayant et en appliquant ces principes, c'est que l'amour de Dieu sera toujours actif pour nous attirer à lui sans se lasser jusqu'à la fin. Et j'imagine qu'en ce moment, dans le royaume de Dieu, il y a un brigand qui a été crucifié sur la croix pour ses fautes et ses vols et qui, au dernier moment, a été arraché à la mort, c'est étrange de le dire, arraché à la mort sur la croix pour entrer dans la vie éternelle. C'est un principe. L'amour de Dieu sera toujours actif pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre attitude de cœur et de vie. Et puis, un autre principe, c'est que notre salut est affaire de décision et de choix, pas après pas. C'est-à-dire que j'aurai toujours à décider ou à ne pas décider de dire oui à Dieu. Ce sont les principes qui, quelque part, sont dans l'Écriture et qui sous-tendent la raison d'être de cette parole de Dieu. Alors, on pourrait dire, oui, bon, mais on peut quand même lire la Bible de manière plus décontracte, plus légère, sans se sentir porté par la lourdeur, l'impératif de l'urgence liée au salut. Ben, oui, bien sûr, on peut. J'en connais qui lisent la Bible comme un livre très intéressant. Quand j'ai commencé mon travail à Kerdudo il y a une trentaine d'années, la Bible faisait partie d'un des groupes de paroles que les patientes utilisaient tous les jours, du lundi au vendredi, et se retrouver. Il y en avait qui utilisaient des livres en addictologie faits par des médecins, par des malades qui s'étaient guéris, etc. Et il y avait un groupe sur quatre qui utilisait la Bible. J'étais un petit peu dubitatif en sachant que les animateurs de ces groupes n'étaient pas forcément des croyants. Et quand j'ai posé la question à une collègue, elle m'a dit « Oui, bon, c'est ce qui nous a été imposé quand le fondateur du centre a mis ça en place, donc le programme de soins. Et comme c'était un pasteur, bah, il a posé, groupe de parole, la Bible dans un des groupes. Et comme tous les patients tournaient tous les 15 jours, elle tombait tous les 15, toutes les 6 semaines ou 4 semaines, elle tombait sur le groupe animé avec la Bible comme support. » Bon, j'ai considéré que ce n'était pas forcément très thérapeutique d'imposer à des gens non-croyants la lecture de la Bible, et surtout de le faire animer par des gens qui n'étaient pas forcément croyants. Mais une de mes collègues m'a dit « Oui, je ne suis pas croyante. » Mais il y a toujours des choses intéressantes dans la Bible. On peut toujours en tirer quelque chose. Je dis « Ouais, d'accord. » Et il y a parfois des chrétiens qui sont comme ça, qui disent « Oui, les principes divins qui sous-tendent l'Écriture, oui, certainement, peut-être. Mais moi, vous savez, moi, je la lis parce que c'est un livre intéressant. Il y a plein de paroles de sagesse. Il y a plein de choses qui ont de la valeur, qui ont du sens. Oui, bien sûr, on peut nier ou oublier les principes spirituels dans la lecture de l'Écriture. On peut faire comme si, par exemple, dans le monde moderne, Isaac Newton, qui a découvert la loi de la gravité en recevant, selon la tradition, une pomme sur la tête alors qu'il se reposait à l'ombre d'un pommier, il dit « Tiens, j'ai découvert quelque chose, la loi de la gravité, quelque chose qui est en haut, la gravité fait qu'à un moment donné, ça tombe. Oui. » Et puis on peut faire semblant de ne pas y croire ou de ne pas s'en occuper en se disant « Ouais, non, la loi de gravité, ça ne me concerne pas. Hein, » c'est ça. Et puis, imaginons que Airbus construise un nouvel avion en disant « Vous savez, nous, on est novateurs. » On ne s'occupe pas de la loi de la gravité. Vous savez, Newton s'est quand même dépassé. On ne va pas s'occuper de ça. On fait abstraction de la loi de la gravité, mais on va construire un avion sans s'en préoccuper. Parce qu'on ne va pas tenir compte des lois anciennes, quand même, des principes anciens. Que croyez-vous qu'il adviendra ? Est-ce que vous êtes prêt à monter dans un avion qui se dit, vous savez, nous... La loi de la gravité, ça ne nous concerne plus. On a quand même passé à autre chose. Est-ce que vous êtes prêt à monter dans un appareil qui aurait été construit en niant ou en se disant, tiens, Newton s'est dépassé, on ne s'en occupe pas, on repart sur de nouvelles bases, on prend la loi de la gravité, ça ne nous concerne pas. Est-ce que vous êtes prêt à prendre votre billet, à traverser l'océan, hein ? Mais j'en doute, hein ? Or, toute l'Écriture laisse transparaître ces principes impératifs spirituels, parce que l'amour de Dieu, sa grâce pour l'humanité, son désir de sauver, sont au centre de sa volonté. Et on ne peut pas lire l'Écriture en se disant « je fais abstraction de ces principes spirituels ». Il y a à peu près un an, enfin plus, presque deux ans maintenant, deux ans et demi, que j'accompagne un jeune homme du sud de la France. D'abord, c'était dans des entretiens un peu à distance de relations d'aide. Et puis, au bout d'un an et demi, deux ans, il m'a dit « Écoute, Jean-Marc, est-ce qu'on pourrait travailler l'Écriture ?» Il a fait un camp au mois d'août l'année dernière où il a découvert comment la parole de Dieu transmise aux enfants pouvait transformer leur vie. Alors il m'a dit, est-ce que tu pourrais m'aider à apprendre à creuser l'écriture? Alors, j'ai dit, bah, pas de problème. Et puis tous les mois et demi, on choisit, je lui propose un texte. Et je lui dis, bah, tu le travailles et ensemble, on essaie de le sonder pour en tirer ce qui est le sens profond de cette parole. Et à partir de la première fois, quand il a commencé, je lui ai dit, n'oublie jamais que quelle que soit la parole sur laquelle nous allons nous arrêter, il y a des principes spirituels liés au salut qui sont sous-jacents. Quel que soit le texte de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse que tu liras, il y a toujours dans ces textes la volonté de Dieu de sauver, d'entrer en relation, de manifester son amour. Il y a toujours cela. Est-ce que c'est cela qui sous-tend notre lecture de l'Écriture quand nous l'ouvrons? Eh bien, je vous propose, moi en tout cas, de parcourir les trois chapitres, 3 et jusqu'à 5 du livre de Josué, en lisant, en relevant quelques principes qui me semblent importants pour nous. Au chapitre 3, à partir du verset 1. Josué se leva de bon matin, partit de Shittim, ils arrivèrent au Jourdain, lui et tous les Israélites, et ils passèrent la nuit avant la traversée. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle, entre vous et l'arche, une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Voilà un premier texte qui entame cette entrée dans la terre promise. Alors vous me direz, bon, c'est un texte, un récit bien sympathique. On voit un peuple qui a fait tout un chemin depuis l'esclavage jusqu'au Jourdain, ou à quelques enclablures du Jourdain. Donc ils sont sauvés, ils sont libérés, ils ne sont plus en Égypte, ils ne sont plus sous le joug de l'esclavage. Formidable. Mais puisqu'ils sont sauvés, quel intérêt d'entrer dans la terre promise? Ils sont libres. Ils sont libérés de la tutelle et du joug de Pharaon. Pourquoi pas s'arrêter, profiter maintenant de la vie? Et il y en a certains qui l'ont pensé. Vous avez une idée de qui a pensé à cela? En se disant, bah, ça y est maintenant! Alléluia! On est libéré! On est libre! Qui a dit, bah, nous, bah, ça nous suffit? Vous avez une idée? Eh bien, sur les 12 tribus d'Israël, il y en a 2,5 qui ont décidé que ça allait bien comme ça. C'est Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé qui, au moment où Israël se présente devant la terre promise, vont voir Moïse en lui disant, bah, écoute, nous, tu sais, maintenant qu'on est libre, la terre promise, c'est un peu plus loin, d'accord. Mais là où on est, maintenant qu'on est libre, ça nous suffit. En plus, bah, les prairies ici, elles sont pas mal. Oui, c'est pas la terre promise, d'accord. Bon, on va pas mégoter. Mégoter n'est pas un mot hébreu, hein. C'est plutôt moderne. Mais ils ont dit à peu près ça. Moi, ils ont dit, tu sais, voilà, nous, ça nous suffit. On est libre, on est sauvé. On peut faire nos affaires, on peut faire prospérer nos troupeaux. Ils avaient, Ruben et Gad, de grands troupeaux. Donc ils se sont dit, ben voilà, nous, pas besoin de la terre promise. Et ils se retrouvaient dans le pays de Yaézer, à 25 kilomètres de Jourdain. Quelque part, ils se sont dit, tu sais, on est à 25 kilomètres du Jourdain. On n'est pas dans la terre promise. On n'est pas loin quand même. On ne va pas tergiverser. C'est comme si on y était. Vous savez, ça me fait penser à ce discours que certains chrétiens peuvent avoir quand ils ont goûté au salut qui se trouve en Christ. Oh, maintenant qu'on est sauvé, bon, la terre promise pour ma vie, les espérances de Dieu pour moi, je peux m'en passer. C'est quand même pas trop mal, la vie. La vie quotidienne, le plaisir. Mes plans à moi, pour ma vie à moi, ça me suffit. Maintenant, je suis sauvé, je suis tranquille. Combien d'hommes et de femmes ont eu ce discours dans leur existence et ne sont pas allés et ne se sont pas sentis poussés à entrer dans leur terre promise. Je suis pas loin, 25 kilomètres. Ici, à Crac. Non, c'est peut-être un peu plus. Il y a ceux qui viennent de Crac qui se disent, mais pourquoi ils parlent de Crac? Combien de kilomètres? Ah, le double. Donc c'est pas Crac. Ils se disent, ouais, ça ne nous concerne pas. Les conditions de Ruben et de Gad qu'ils considèrent, ce n'est pas la plénitude du salut, la qualité du salut pour eux, c'est les conditions économiques de leur vie qui finalement sont plus favorables et ils disent, je ne suis pas sûr qu'on trouvera mieux en terre promise. Vous savez, les choix, c'est toujours, comme on dit, une question de balance décisionnelle. Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Et pour Ruben, Gad et une demi-tribu de Manassé, c'est dire, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant d'entrer en terre promise au regard de ce que nous avons sous les yeux. Il s'agit bien là d'un peuple qui est sauvé, mais qui ne voit pas l'importance d'aller et d'entrer plus loin dans le salut. Car c'est cela le principe spirituel. Dieu ne veut pas simplement nous sauver. Il veut faire de nous, comme pour Israël, un peuple qui rentre dans le salut, dans toute sa plénitude, y compris collectivement, y compris individuellement. Je veux et j'ai pour toi des plans qui te dépassent. C'est ce que dit la parole de Jérémie. J'ai pour toi des pensées de salut, des pensées qui vont au-delà de ce que tu imagines. J'ai envoyé ce verset-là hier à quelqu'un de manière plus précise. Et je lui ai dit, voilà, ce que je souhaite pour toi, c'est vraiment que tu rentres dans cette dimension-là. Et pas être comme Ruben, Gad et une demi de Manassé qui disent, ouais, nous ça va bien, hein, ça nous va bien comme ça. Alors on sourit. Mais combien parfois dans notre vie, nous sommes là en disant, oh, bah, je suis satisfait finalement de ce que j'ai, sans penser à toutes les richesses que Dieu a pour nous. Vous vous rappelez ce scribe dans l'évangile de Marc au chapitre 12, verset 34 c'est ce scribe qui vient voir Jésus et qui lui dit, que dois-je faire pour être sauvé? Alors, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans l'Écriture? Bah, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Et puis, Jésus est-il dit au verset 34 de l'Évangile de Marc, chapitre 12, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne ne nous a lui posé d'autres questions. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Waouh, ça c'est une appréciation. Certains ont pu se dire en regardant le scribe, waouh, t'es quelqu'un de bien, t'es pas loin. Puis en même temps, moi je me dis, c'est une parole terriblement dure. T'es pas loin, mais t'es pas dedans. Et ouais, c'est ça que ça veut dire. Certains ont pu lire la réponse de Christ comme un encouragement, une valorisation de la position du scribe par rapport à Jésus ou vis-à-vis de Dieu. Mais au contraire, c'est un terrible constat. Il n'est pas loin, mais il n'est pas dedans. Ça fait penser à certains commentaires sportifs, vous savez, quand un athlète ou une équipe échoue au pied du podium. Ah, il a failli gagner. Et il sera oublié. parce qu'il a seulement failli gagner. Vous savez, la plus terrible place dans une compétition, c'est pas la dernière, c'est la quatrième. Parce que vous êtes le premier des perdants. Ah ouais ? Tu n'es pas loin. Un petit peu plus et t'étais sur le podium, dis donc. C'est ça que dit Jésus aux scribes. Qu'en est-il de nous ? Est-ce que nous sommes de cette même matière de champion à être au pied du podium et peut-être même à s'en satisfaire ? Le scribe, il a failli entrer dans le royaume de Dieu. C'est autre chose qu'un podium sportif. Il a failli rentrer dans le royaume de Dieu. Mais il est toujours perdu. Il a toujours perdu. Il est toujours perdu. Ne pas entrer dans la terre de la promesse, c'est se trouver en situation de fragilité quand l'ennemi surviendra. Je me suis toujours interrogé dans l'histoire. Qu'est-il advenu de la tribu de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé qui sont restés de l'autre côté du Jourdain, à l'est du Jourdain, c'est-à-dire pas dans la terre promise? C'est très difficile à voir, mais on peut se dire que toutes les attaques qui ont été faites contre Israël, ils en ont été les premières victimes. Être en dehors de la terre promise, c'est s'exposer. Parce que finalement, on n'a pas la protection d'être dedans, dans le royaume, mais d'être à l'extérieur. En tant que chrétien, considérer que nous n'avons pas à entrer dans le royaume de Dieu ou dans les promesses de Dieu pour notre vie, c'est risqué. C'est très risqué. Parce que le lion rugissant qui rôde pour savoir qui il prendra, s'attaquera à ceux qui sont d'abord à l'extérieur. J'aime beaucoup les reportages animaliers, vous savez, quand vous voyez une troupe de lions ou de loups, les prédateurs qui entourent un troupeau, ils ne choisissent pas l'animal du milieu. Hein. Ils ne disent pas « Ah tiens, si on écarte tout cela, celui qui est au milieu, là, il serait pas mal. » Non, non, non. Ils font le tour et ils prennent celui qui s'écarte, celui qui traîne, celui qui est à l'écart. Et celui-ci est la proie. Je pense que ce principe spirituel vaut pour l'Église comme il valait pour Israël. Être dans le royaume, être en Christ. J'aime beaucoup le prologue, et Cheikh Michel, comme moi, a eu le privilège d'entendre un pasteur qui s'appelait Benjamin Selvaratnam, prêcher, il me semble que tu l'as entendu, hein, sur le prologue de l'Épître aux Éphésiens, qui répète dans le premier chapitre, en lui, nous avons, en lui, nous avons, en lui, nous avons, en lui, nous avons. Oui, en lui, en Christ. Et il vaut mieux être en Christ que de ne pas être loin de lui. Dans ce texte que nous venons de lire, parmi les autres principes qui apparaissent, il est dit qu'à un moment donné, ils passèrent la nuit avant de la traverser, et au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu porté par les sacrificateurs, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Vous partirez 3 jours après. Il y a toujours des petits détails comme ça dans les écrits. J'y tiens. Ils sont arrivés au bord du Jourdain. Ils sont dans cette position du salut, mais maintenant, il leur s'agit d'entrer, de franchir le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Ce sont deux étapes différentes. Il y a eu d'abord, la séparation de la mer Rouge qui sauve le peuple de la puissance de Pharaon. Avez-vous remarqué, d'ailleurs, les similitudes ou les parallèles entre le passage, la liberté et le salut accordé à Israël par le passage de la mer Rouge et l'entrée dans le pays de Canaan. À chaque fois, il y a un élément liquide qui se sépare en deux pour leur donner le passage. Et vous savez quoi ? Vous avez regardé et lu dans le livre de l'Exode, le passage qui mentionne le passage d'Israël dans la mer Rouge. Oui, vous l'avez lu. Vous avez remarqué que finalement, c'est un passage qui ne fait l'objet d'aucune symbolique, de rien de particulier. C'est le train-train quotidien. Ils arrivent, ils sont coincés, Dieu ouvre la mer Rouge en deux, et puis c'est bon, et ils taillent la route. Et ils arrivent dans le Jourdain, bon, c'est pas une mer, c'est un fleuve, mais ils arrivent dans le Jourdain, et là, il y a toute une symbolique qui est mise en place avec l'arche qui passe d'abord, et puis ensuite, ils retirent des pierres du lit du Jourdain qui vont aller déposer à Gilgal. Il y a toute une symbolique autour. Je dis, mais moi, je trouvais que c'était... Excusez-moi, c'était drôlement plus impressionnant de vous ouvrir la mer Rouge en deux pour faire passer. En fait, la mer Rouge, c'est la part de Dieu qui sauve. Là, c'est moi qui fais le boulot, dit Dieu. Au niveau du Jourdain, c'est l'acte de foi d'Israël qui franchit le Jourdain pour entrer dans les promesses. Ils sont déjà sauvés. Quand je disais tout à l'heure, pourquoi aller dans la terre promise ? Parce que il y a eu un acte de salut réalisé au moment de la mer Rouge pour être sauvé et que la mer engloutisse l'adversaire. Toute la symbolique de l'œuvre de la croix. Et il y a une autre symbolique, c'est est-ce que une fois sauvé, tu veux rentrer dans les promesses de Dieu ? Tu peux rester sauvé en deçà, comme Manassé, Ruben et Manassé. Mais est-ce que toi... Et les deux étapes sont très parallèles. Et si vous regardez, le salut ne fait l'objet d'aucune symbolique. Par contre, le passage du Jourdain est fortement marqué par une symbolique en disant, si tu fais le choix... Tu mettras des pierres afin que tes enfants se souviennent de ce que tu as choisi de vivre. Le salut, c'est moi, dit Dieu, qui l'accomplis. Mais le passage dans le pays promis, c'est toi qui fais ce choix. Et tes enfants se souviendront de ce choix que tu as fait. Le témoignage d'être entré dans la terre promise. Quand ils te regarderont, ils verront ces pierres qui ont été posées à Gilgal et ils se diront, oui, elle ou il a vécu le salut dans sa vie. Et ça me dit, moi qui est son fils ou sa fille, quelque chose de ce choix personnel. 3 jours après être arrivé, 3 jours, comme... 3 jours après la crucifixion, les disciples ont eu à entrer après la résurrection dans les promesses de Dieu, dans les promesses de Christ. Au matin de Pâques commence le choix d'entrer dans les promesses. 3 jours après, le matin de Pâques, à partir de ce jour-là, il y aura à choisir. Est-ce que je rentre dans les promesses de celui qui est ressuscité ? Je suis sauvé, d'accord ? À la croix, il a pris mes péchés, mais ce matin est nouveau, et 3 jours après, vous partirez du lieu où vous êtes et vous marcherez à sa suite. 3 jours après, Israël a vu l'arche les précéder. Cette arche, qui dans l'Épître aux Hébreux, je vous le rappelle, est une représentation de Christ. Relisez toute l'Épître aux Hébreux et vous verrez que l'arche, c'est la représentation de Christ. Chapitre 9, 10, 11 de l'Épître aux Hébreux, on est véritablement dans cette révélation. Or, cette image de l'arche qui, 3 jours après, franchit le Jourdain, et cet ordre dit, à partir de maintenant, vous la regardez et vous la suivez. Waouh ! Est-ce que nous sommes, nous aussi, en tant que croyants, prêts à suivre le Christ comme Israël a suivi cette arche ? C'est un principe. Il ne suffit pas simplement d'être sauvé. Maintenant, il s'agit de le suivre et d'entrer dans une autre dimension, dans une autre plénitude de vie. À une distance, soi-disant, quand même, en précisant, c'est une distance de 2000 coudées. Une idée de ce que ça représente, 2000 coudées ? Je regarde un marin, il dit, moi, je ne suis pas concerné, c'est des miles. Des mille, non, des mille, des mille. Combien ? Un kilomètre. Ouais, un kilomètre. Tiens, il faut suivre à un kilomètre. C'est étrange comme ordre quand même. Suivre l'arche, vous la suivez, mais à un kilomètre. Sauf au moment où vous traversez le Jourdain, parce que là, il faut passer devant. Mais après, vous la suivez à un kilomètre. Parce qu'il y a une réalité, c'est que vous devez vous sanctifier. Quelque part, l'arche comme Christ, ce n'est pas un outil usuel. Ce n'est pas un copain. Ce n'est pas quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer nonchalamment en se disant « Bon, allez, avance, tu me supportes. » Il y en a un qui a essayé au temps du roi David, il est mort foudroyé. Non, il y a une distance et un respect à avoir lié à la sainteté de celui que nous suivons. Oui, il est mon frère. Non, il n'est pas mon copain. Il y a un respect à avoir par rapport à celui qui est fils de Dieu et qui m'accueille comme son frère. Suivre. Suivre, c'est quelque chose d'intéressant. Quand il est dit dans ce texte-là que vous le suivrez, vous partirez du lieu où vous êtes et vous marcherez à sa suite. D'abord, vous partirez du lieu où vous êtes. Quand je suis sauvé, je suis arrivé à un stade, à une étape de ma vie. Mais je dois continuer ma route. Il ne s'agit pas de rester là, sur place, au pied de la croix, en disant « je suis sauvé, c'est génial, je suis sauvé ». Non, tu partiras en tant que sauvé du lieu où tu es pour le suivre maintenant. Combien de chrétiens se contentent simplement du salut sans accepter, et ça c'est ma femme qui le répète à l'envi à tout le monde, sans accepter qu'il devienne mon Seigneur. Le suivre, c'est l'accepter comme Seigneur. Christ ne veut pas que je reste uniquement là, contemplatif du salut que j'ai, en me disant, bon ben maintenant, chouette, avec un peu de chance, c'est l'enlèvement, si j'en ai pas, c'est la mort et je le retrouve. J'ai entendu ça ? J'ai entendu cela ? Non, non, vous allez partir du lieu. Alors, juste, j'ai fait une... c'est dans un autre... je ne sais plus où je l'ai noté, mais j'ai fait un calcul. Il y en a qui sont restés dans le peuple d'Israël. En fait, il dit, je crois qu'il y en a 40 000 qui sont passés de l'autre côté. Et en fait, dans le livre des Nombres, on dit qu'ils étaient 120 000. Mathématiquement, ça ne colle pas. Alors que Ruben, Gad et Manassé sont passés de l'autre côté. Ils avaient promis à Moïse, oui, on veut bien nous rester en dehors de la terre promise, mais on ira quand même combattre avec les autres. Mais les chiffres ne collent pas. Ça veut dire que pour certains exégètes, il y en a quand même quelques-uns qui se sont dit, nous, on va peut-être attendre ici. Vous savez, quand j'étais jeune, j'habitais dans une cité HLM, puis on avait des jeux bêtes. Et puis avec un copain, mon frère, on avait inventé un jeu. On quittait nos cités HLM, puis on allait dans les... Pour nous, c'était les quartiers bourgeois. Ça ne l'était pas au regard. Maintenant, quand je les traverse, je dis, mais ils ne sont pas plus bourgeois. C'était une petite zone pavillonnaire qui est à côté de Coquerioville et qui s'appelait Applemont. C'est une partie de la ville du Havre. Applemont, c'est, en anglais, c'est Apple Mount, le mont des pommes. Ça, c'est pour Hugh qui est là. Et quand on allait à Applemont, nous, on était là, venant des cités HLM, on regardait ces maisons. Alors, on disait, c'est quand même génial si on habitait là-dedans, tranquille, tout. Alors, on avait inventé un jeu. On attendait que la nuit tombe. On prenait un quartier. Et là, pour se provoquer les uns les autres et vérifier notre courage, on se disait, alors, chiche ou pas chiche ? On traverse ce quartier-là par les jardins. On saute par-dessus toutes les haies du quartier et on se retrouve de l'autre côté. C'est un jeu bête. Hein. Puis je dis, s'il y a un chien, bah tant pis. Faut courir vite. Et on l'a fait un nombre incalculable de fois. Il est bien arrivé une fois ou deux, il y en a un de ceux qui étaient là et qui dit, Moi, là, je ne le sens pas. J'ai entendu un chien, je ne le sens pas. J'y vais pas. Non, non, je vous attends. Ou je fais le tour du pâté de maison, je vous attends de l'autre côté. C'est arrivé. Il y a plusieurs milliers du peuple d'Israël qui ont dit, moi, je ne le sens pas. Franchir le Jourdain, moyen, moyen. Donc, je vous attends de l'autre côté. Allez-y, puis je vous rejoins. Ouais, il y a eu un certain nombre de Juifs qui ont fait ça. Alors, ceux qui sont passés pour suivre l'arche. Vous savez, suivre, ce n'est pas le plus souvent marcher à l'aveugle, mais ça y ressemble quand même. C'est-à-dire qu'on suit de loin, 1 kilomètre. Vous arrivez à voir quelqu'un, vous à discerner qui marche devant vous à 1 kilomètre. Si vous avez, une bonne vue. Hein. Mais là, il est dit, vous avez l'arche, à 1 kilomètre, vous la suivez. Pas moins. Ah ouais. Suivre, c'est parfois s'éloigner, parfois du chemin, par mégarde. C'est quand on est à 1 kilomètre, comme ça, c'est pouvoir se tromper, volontairement ou pas. C'est s'attarder à cause de la fatigue, du découragement, de la nuit qui vient. Ceux qui suivent Jésus savent bien qu'ils doivent avancer à petits pas, parce que parfois, on ne sait pas où on met les pieds. Hein. Suivre. Alors, il y a quelque chose que je trouve intéressant aussi dans le fait de suivre, c'est quand on suit quelqu'un, qu'est-ce qu'on voit ? Son dos. Ouais, son dos. Ça va faire plaisir à ma femme. Parce que si on suit Jésus, il marche devant nous. On voit son dos. Ça veut dire que celui qui est devant, c'est qui ? C'est Christ. Je trouve très étrange qu'aujourd'hui, la mode soit au fait que les hommes veulent devenir des leaders, c'est-à-dire ceux qui sont devant, to lead, conduire, être devant. Alors que, visiblement, pour Israël, comme pour nous vis-à-vis de Christ, l'ordre est de le suivre, lui. Mais si je suis leader, du coup, je suis devant. Si je suis devant et je dis oui, mais je suis devant et je regarde Jésus-Christ. Oui, donc tu marches à reculons, alors. Parce que si tu es devant Christ, tu le regardes et que tu es devant lui, bah, ça veut dire que tu marches à reculons. C'est pas pratique quand même, hein ? Non, vous ne trouvez pas ? Ah ouais. Suivre l'arche, suivre Christ, ça demande à un moment donné d'être vraiment à le regarder, les regards fixés sur lui. Et la raison pour laquelle il leur est dit de suivre l'arche, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. C'est un chemin nouveau ! Oh, vos chemins anciens, vous les connaissez. Mais là, le chemin que vous aurez à parcourir pour entrer dans la terre promise, c'est un chemin nouveau, vous ne le connaissez pas. Si vous relisez le texte des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, il est écrit ceci au chapitre 10, verset 19. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Puisque nous empruntons une route nouvelle et vivante. » Alléluia ! Hébreux 10, 19. C'est pour ça que vous devez le regarder, parce que si vous ne connaissez pas la route. Oh non, moi je connais tout, il n'y a pas de problème. Oh, je sais où je vais. Alors surtout moi. Ceux qui me connaissent bien disent, si on part en voyage avec Jean-Marc, il vaut mieux qu'on prépare les choses. Moi, heureusement, Dieu m'a donné un GPS. Il s'appelle Francine. Et dès le début de notre mariage, j'ai constaté que ça ne marchait pas trop mal. Et qu'il va mieux que je me fie à mon GPS assis sur le siège de droite, que à moi, je suis une capacité à me perdre, mais phénoménale. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que je suis capable de persévérer dans ma perdition. C'est-à-dire, quand je me perds, le pire, je crois que ça a été 11 heures. Je me suis perdu 11 heures à Bruxelles, et ben j'ai continué 11 heures. Il y a de la persévérance, parfois, dans nos vies, à se perdre. Est-ce que ce n'est pas le cas non plus en tant que chrétien, en tant que croyant ? Ce chemin est nouveau. Le chemin est nouveau. Oui, alors Seigneur, mon regard est sur toi parce que je veux te suivre. La question est de savoir si nous le suivons à l'intérieur du sanctuaire, dans la terre promise, si nous empruntons ce chemin nouveau de vie et d'espérance, un chemin qu'il nous est donné de vivre pour que la vie fleurisse en nous et que nous devenions les hommes et les femmes faits pour que Dieu a prévu que nous soyons. Est-ce que nous sommes prêts à emprunter, entrer ou rester dehors? Le même principe spirituel qui s'est posé pour les deux tribus ennemies de Ruben, Gad et Manassé, nous on reste dehors. Moi, je veux rentrer dans les promesses de Dieu. Jacob, quand il est décédé, c'est intéressant si vous avez l'occasion d'aller dans Genèse 49 et Deutéronome 33. Vous avez Jacob en Genèse 49 qui bénit ses douze fils. Et puis vous avez Moïse qui bénit les douze tribus, donc les tribus issues des douze fils. Et quand Jacob bénit Ruben, il lui dit « Toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. » Ah ça, qu'est-ce que j'aurais rêvé que mon père me dise ça ou que ma mère. « Toi, mon premier, je suis l'aîné. » Ça ne marche pas pour tout le monde, hein. Il y a des petits cadets là qui... Michel, c'est le petit de la famille, de la fratrie. Donc, mais moi, je suis l'aîné. Alors, si mon père m'avait dit « Toi, Jean-Marc, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur !» Je dis « Waouh ! Tchou !» Ouais. « Supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. » Bon, bah, t'auras rien. Ah bon ? Non, parce que tu as fait quelque chose qui n'était pas juste, tu as souillé ma couche en y montant, etc. Premier-né, mais il fait comprendre à Ruben qu'à cause de sa nature, alors qu'il était d'une grande dignité et un caractère fort, il était instable comme l'eau, impétueux comme les eaux. C'est-à-dire que ta personnalité, elle est aussi instable que les eaux. On comprend cette image-là liée à cet hiver. Mais est-ce que parfois mon caractère, ma personnalité instable fait que cela m'éloigne aussi des chemins de Dieu, des promesses de Dieu, et qu'à cause de cela, je vais passer à côté de ce salut. Non pas je serai sauvé, oui, Ruben a été sauvé, mais il n'est pas rentré, lui, le premier-né. Pourtant, si vous lisez l'histoire de Joseph dans la Genèse, c'est celui qui a envisagé de sauver Joseph, contrairement à ses frères. Et donc, il dit, mettez-le à part, mais ne le tuez pas, etc. Oui, mais trop instable. Ses émotions, ses sentiments le submergeaient. Jacob a fait comprendre que la nature de Ruben était en fait un piège pour lui. Si on relit aussi la manière dont Gad a été béni, il est dit de Gad, c'est une troupe. Il y en a beaucoup qui vont être contre lui, mais lui, il va finir par les battre. Mais n'empêche qu'il fait le choix, lui aussi, alors que, waouh, lui aussi, il a un nom assez génial. Quand il est né, il est né de Léa, la première femme de Jacob, elle a dit, waouh, le bonheur est venu. Je ne sais plus quel est l'enfant à naître dans la famille Canaan. C'est un garçon, je crois. Et puis, on devait deviner la date de naissance, le poids et le prénom. Je n'ai pas pensé à Gad. J'ai fait une autre proposition. J'aurais dû. Gad, ça veut dire le bonheur est venu. Waouh, pas mal. Ben, n'empêche que Gad, ce bonheur-là, finalement, il fait le choix de ne pas rentrer dans le pays de la promesse. Il va s'en écarter. Est-ce que nous sommes prêts à rentrer derrière Christ dans notre terre promise, comme Israël a suivi l'arche? Et puis ils ont fait quelque chose de particulier. Ils ont été conduits par Dieu à prendre des pierres du milieu du Jourdain et les emmener avec eux pour en faire une sorte d'édifice. Un petit peu comme dans le Finistère, sur la côte, quand vous allez à la Pointe du Raz, par exemple. Vous voyez, il y en a qui empilent des roches ou des galets les uns sur les autres. C'est ça. En fait, ils devaient être bretons, les douze tribus. Ils ont pris des cailloux, ils ont été en faire une pile à côté. C'est un principe spirituel qui dit que le Jourdain, c'est la limite entre deux territoires, celui de l'esclavage en deçà du Jourdain et la terre promise au-delà du Jourdain. C'est l'arche et ce qu'elle contient et représente qui fixe la limite entre l'avant et l'après. Dans l'arche, il y avait l'étape de la loi, un pot de manne et le bâton d'Aaron. C'est-à-dire la loi et la parole de Dieu qui définissent ce qui est juste, cette parole-là, c'est cela qui dit, avant, il y a, je dirais, la méconnaissance, la séparation avec Dieu. À partir de là, la parole de Dieu est là pour dire ce que je veux, ce que je suis, ce que tu es, ce que tu peux devenir. Et puis, il y a la manne qui est un rappel de « Je suis ce Dieu fidèle qui prendra soin de toi. Même si tu devais passer 40 ans dans le désert, je prendrai soin de toi. N'aie aucune crainte, n'aie pas peur, quelles que soient les circonstances, je prendrai soin de toi. » Et même, jour de Shabbat, je te donnerai une double ration. C'est-à-dire que même si tu as des moments difficiles, je te donnerai double ration. N'aie pas de crainte. Et le bâton d'Aaron, c'est tout simplement la question de l'autorité. Qui a autorité ? À partir du Jourdain, Dieu dit, je veux être celui qui a autorité sur ta vie, personnelle et collective. C'est un principe spirituel. Et les 12 pierres, et je terminerai avec cela, est-ce que vous savez que le Morbihan est en instance d'être éventuellement classifié au niveau mondial à cause de ces pierres. Hein ? Les bretonnants, là, j'en vois Dieu qui disent « Oui, je suis au courant !» Ben oui, c'est les menhirs et puis les... c'est dolmen aussi, puis dolmen et menhir à Gavrinis. La France a demandé à ce qu'elle soit classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, c'est un monument extraordinaire, Gavrinis. C'est un des rares sites où vous avez des dolmens et des tables qui sont totalement gravées, des gravures magnifiques. C'est vraiment un lieu exceptionnel. Alors, c'est une architecture funéraire, cultuelle, qui est unique au monde, avec une profusion de sculptures. Et donc, voilà, ça va être proposé. Mais là, on est déjà dans une proposition d'un site qui est là, passé devant l'arche, prenez des pierres, mettez-la. Alors, il n'y a pas eu de pierre symbolique, je le disais, au moment du passage de la mer Rouge. Bizarre, hein ? Mais parce que la mer Rouge, c'était Dieu qui accorde le salut. Mais 12 pierres lors du passage du Jourdain, parce que l'homme entre dans la terre promise. 12, c'est un chiffre qu'on retrouve beaucoup. Hein. C'est, vous avez les 12 tribus, vous avez les 12 apôtres, vous avez les 12 portes et 12 fondations dans l'Apocalypse. C'est quelque chose qui parle quand même de l'entièreté du peuple, de ceux qui sont là, mais aussi des constructions qui peuvent être établies en Dieu. Mais ces sites-là, c'est aussi un rappel pour que ils disent aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il a mis à sec devant vous jusqu'à ce que nous eussions passé. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Ces pierres, c'est un témoignage. Quelles sont les pierres dans notre vie qui témoignent que nous sommes passés de l'autre côté, qui témoignent de ce que nous sommes en Christ? Parce que c'est véritablement ce que ceux qui sont autour doivent voir, le témoignage que nous sommes véritablement passés de l'autre côté. Il y avait deux sœurs qui avaient leur anniversaire cette semaine et j'ai lu un texte et j'ai fait choisi un poème qui parle justement de qu'est-ce que les autres voient et qu'est-ce que nous laissons derrière nous. Alors c'est pas parce que c'est des sœurs et qu'elles ont un certain âge, ça n'a rien à voir, mais parce que ce sont des sœurs et que je crois, c'était Agnès et Christiane, qu'elles ont un témoignage et quand on regarde leur vie, on peut dire oui, on voit le témoignage de ce que Dieu est en elle. Alors, j'ai choisi ce verset que je viens de lire, de Josué 4:21, et j'ai mis ce poème de Jean Marcenac, que j'aime beaucoup, que j'ai lu il y a quelques années, et qui parle justement de ce que nous rendons visible ou laissons visible aux autres. L'espoir. Ce qui naîtra de nous est un sillage véritable. Les autres le suivront en sachant où il mène. Enfants perdus tombés au combat d'éclaireurs, nous n'avons nulle part à ce que nous créons. Saluons cependant la victoire des hommes. J'aime beaucoup ce texte. Et j'en ai fait quelques copies. Tiens, si tu peux, Michel, les faire passer. Si vous avez envie, vous le prenez, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est vraiment un texte qui m'a beaucoup parlé, à la fois celui de Josué et celui de Marcenac, l'espoir. Ce qui naîtra de nous est un sillage véritable. Les autres le suivront en sachant où il mène. Enfants tombés, perdus, tombés au combat d'éclaireurs, nous n'avons nulle part à ce que nous créons. Saluons cependant la victoire des hommes. Que le Seigneur nous donne de franchir le Jourdain et de vivre le pays des promesses pour nous. Amen.